Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On va donc s'intéresser à présent à cette maladie de peau qui peut être très invalidante pour ceux et celles qui en souffrent, le psoriasis. Alors pour nous éclairer sur le sujet, vous êtes avec nous en studio, professeur Émilie Sbidian, bonjour.
Bonjour, ravie d'être parmi vous pour parler de psoriasis.
Très bien, vous êtes donc dermatologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors justement, on va définir un peu ce que c'est vraiment cette maladie finalement, parce qu'on a en tête que c'est une maladie de peau, mais je crois que c'est pas seulement ça, il peut y avoir d'autres manifestations. C'est quoi le psoriasis alors ?
Alors le psoriasis, on pourrait le définir comme une maladie chronique inflammatoire qui touche principalement la peau. Alors si on essaye de préciser les termes, chronique, ça veut dire que les patients vont être touchés pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années. Inflammatoire, c'est donc une présence d'inflammation qui est liée à un trop grand renouvellement de la peau qui se fait en 3-4 jours, alors que pour un sujet lambda, ça va être 3 semaines. Mmh. Donc, ce qui va expliquer la rougeur, les plaques, l'épaisseur, c'est toute cette peau supplémentaire qui est fabriquée. Et en effet, comme vous venez de le dire, il y a d'autres atteintes associées à ce psoriasis, principalement des atteintes articulaires. Mmh. On parle de rhumatisme psoriasique et ça peut se manifester sous différentes formes. Soit des atteintes de la colonne, des douleurs lombaires, des douleurs dorsales.
Clément Lanou.
J'ignorais, oui. Donc j'ai une question, ça touche toutes les parties du corps ou... De non, je pensais que c'était surtout le crâne et les cheveux, non, pas du tout.
Non. Alors, la sévérité est différente. Donc, certaines personnes peuvent avoir une atteinte exclusivement du cuir chevelu, mais d'autres peuvent avoir l'ensemble du corps touché et on peut comprendre les difficultés. On était un peu dans l'image de soi, là,
juste avant
et ça rejoint... un impact sur la qualité de vie. Oui.
Mais c'est une maladie génétique, c'est bien ça ou pas ?
Alors, oui, et pas seulement. Ça veut dire qu'il a été identifié des gènes liés au psoriasis. Donc, il y a une prédisposition génétique, puisqu'il y a 30 à 40% des patients qui rapportent une forme familiale.
D'accord.
Mais ce n'est pas suffisant. Il faut des facteurs environnementaux pour déclencher le psoriasis.
L'obésité en est un, je crois, par exemple.
L'obésité en est un, tout à fait. Alors, l'obésité va jouer à plusieurs niveaux. L'obésité, le surpoids, qui passe surtout par la mauvaise alimentation, les boissons trop sucrées.
Trop de gras, trop de sucre. Trop...
Ouais, exactement.
Ça veut dire, professeur, que c'est un gène qu'on a en nous et parce qu'on s'alimente mal, il peut se déclencher et apparaître. La maladie
à cause de facteurs environnementaux comme le surpoids, oui, ça peut se déclencher à ce moment-là. Quand ce surpoids crée de l'inflammation aussi systémique. Et ce poids, il est aussi à l'origine d'une plus grande sévérité du psoriasis et d'une mauvaise réponse au traitement. Donc il apparaît à
plusieurs... Parce que l'obésité, le surpoids, le gras qu'on a forcément sous la peau, tout ça c'est de l'inflammation, c'est ça, on est d'accord, la graisse rend le corps inflammatoire en fait.
Exactement, et donc c'est associé au psoriasis, mais c'est associé à d'autres maladies inflammatoires également.
Qu'est-ce qui déclenche en général la première crise de psoriasis ? Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens dont j'ai entendu parler qui ont eu une première crise parce qu'un stress, un deuil, un accident, il y a vraiment un lien avec le stress dans le déclenchement. De la maladie.
Des chocs émotionnels, tout à fait, mais pas que. Le surpoids, le tabac, des infections virales, les virus peuvent aussi déclencher les premières poussées de psoriasis.
C'est prouvé le lien avec le stress, vraiment, dans l'apparition de la maladie ?
Oui, et c'est pas spécifique du psoriasis. En général, le stress, des chocs émotionnels peuvent déclencher des maladies chroniques.
Évidemment. Alors, cette maladie, elle ressemble à quoi pour eux ? Parce que je ne sais pas, moi, si j'ai eu du psoriasis, comment je peux
vous
savoir ?
Vous le sauriez, je pense, non ?
Oui.
C'est des plaques qui sont des plaques extrêmement bien limitées, qui sont rouges et avec beaucoup, enfin, une épaisseur importante, qui sont les squames. Des squames qui peuvent être perdus un petit peu partout là, à la maison, on perd sa peau sur le lieu de travail. Ça peut être vraiment très handicapant, très invalidant pour les personnes atteintes.
Ça gratte ou pas ?
Ça gratte, 50% des patients se grattent. Ça peut être douloureux quand c'est mal placé au niveau des articulations, par exemple, quand ça limite les mouvements.
Dans le creux du coude, c'est ça ?
Alors ça, c'est plus l'eczéma, va être plus le
derrière,
coude. Alors, c'est sur des zones de frottement.
Ouais. Très bonne question de Mélanie Gomez. Mais comment on fait la différence entre l'eczéma et le psoriasis ?
Sur la forme de la lésion, puisqu'elle est bien limitée, et elle est sur des zones de frottement, donc les coudes, les genoux, le cuir chevelu, vous en parliez, l'ombilic au niveau du sacrum, le nombril pour l'ombilic. Et l'eczéma, c'est des plaques qui sont beaucoup moins bien limitées, beaucoup plus fines, plus discrètes, et qui, elles, vont toucher les plis de flexion.
Mais c'est très fréquent, le psoriasis, dans la population par rapport à l'eczéma, par exemple.
Oui, il y avait une étude de la Société française de dermato, Objectif Peau, il y a quelques années, qui avait regardé les prévalences, la proportion de gens atteints de maladies de peau, et le psoriasis, c'était 4 à 5% de la population française.
Ah oui, c'est pas mal, quand
avec
même.
Avec une sévérité qui est différente, hein. Il peut y avoir des gens qui ont quelques plaques du cuir chevelu, et d'autres qui sont vraiment atteints et qui nécessitent une prise en charge spécialisée.
D'autant que vous dites, bon, bien sûr, il y a des degrés de sévérité de la maladie, mais c'est une maladie qui évolue par poussée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes un peu plus calmes, des périodes où ça s'aggrave, où ça va s'étendre partout sur le corps, c'est ça, hein ?
Alors, pour la plupart des gens, oui, dans les formes les plus modérées. En effet, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Et puis, pour les formes les plus sévères, c'est en continu. On a ces plaques en permanence.
Tout le temps. Oh là là. Ouais. Bon, c'est pas gai, on va essayer de passer justement aux choses positives. Ne bougez pas, professeur Sbidian, on va passer au traitement. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette maladie chronique, il y en a beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, on devrait pouvoir trouver une solution quasiment pour mettre au moins en sommeil la maladie pour tous les patients. Et toutes ces bonnes nouvelles, c'est évidemment sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin aussi de votre santé et de celle de vos proches, surtout s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est concerné par la pathologie qui nous intéresse ce matin. On parle du psoriasis et surtout de ses traitements. On va faire le point avec le professeur Émilie Sbidian, dermatologue à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil. Alors avant de passer au traitement, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, est-ce que le psoriasis démarre forcément à l'enfance ?
Non. Le psoriasis, c'est une maladie de l'adulte. Il y a deux pics à 40-50 ans et à 60 ans. Alors, il y a des cas pédiatriques, mais c'est vraiment pas fréquent.
Ah, c'est dingue.
Et tant mieux.
Oui, tant mieux. Et pourquoi 40-50 et 60 ? Pourquoi si tard ? On sait ça ?
C'est très variable selon les pathologies inflammatoires.
Ce sont des pics de fréquence.
Oui,
mais on peut sortir
pourquoi.
Aussi des pics, quoi, parfois, malheureusement. Hein, c'est ça. Alors, on va passer justement au traitement de cette maladie. Bien sûr, tout dépend de la gravité. On a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs stades. Mais pour quasi tous les patients, ça démarre toujours en première intention par des crèmes. Hein, je crois des crèmes à base de corticoïdes, notamment, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, c'est pas que ça démarre. Tout le monde en aura. Tous les patients qui ont un psoriasis en auront. Mais par contre, ça peut démarrer, si c'est vraiment sévère, directement par un traitement systémique. Et pour ces crèmes, il y a deux types de crèmes que sont les dermocorticoïdes, donc des crèmes à base de cortisone qu'il faut savoir bien appliquer, ne pas hésiter
Bien tartiner.
Voilà, bien tartiner.
Parce que les gens ont peur de la cortisone.
Les gens ont toujours peur de la cortisone et finalement, on ne met pas assez, ne vont pas mieux, ça traîne
ça
et ils ne sont pas
souvent,
soulagés.
Ouais.
Voilà, donc il faut traiter fort, mais moins longtemps.
Il y a moins de risques avec la cortisone sous cette forme, on est d'accord ? Il n'y a pas d'effet secondaire particulier.
Il y a des effets secondaires quand même, parce qu'il y a un passage systémique, il y a un passage dans le corps, mais moindre que la corticothérapie par comprimé.
Donc on est généreux sur la cortisone.
On est généreux sur la crème si on veut que ça marche.
D'accord. Mais pour le cuir chevelu, on va se mettre de la cortisone dans les cheveux ?
Oui, c'est possible.
Ah
ça est sous forme de lotion. Il y a différentes formes.
En fait, on parle
de galénique. Oui, c'est des shampoings, des lotions. Il y a des pommades. Enfin, il y a des mousses. Il y a vraiment beaucoup de présentations différentes de ces traitements topiques. Et le deuxième traitement topique, c'est un dérivé de la vitamine D. C'est ce qu'on fabrique naturellement quand on s'expose au soleil. Et donc ça, c'est apporté puisqu'on sait que le psoriasis est amélioré au soleil. Mm-hmm. Et donc cette vitamine D, elle existe aussi en pommade ou en crème. Et elle permet d'améliorer nettement les plaques de psoriasis.
Alors, une question pour vous d'une auditrice ou un auditeur, Christa Esther, qui parle de son papa qui a eu du psoriasis, de nombreuses années, des plaques sur les coudes. Aucune crème, aucune application quelconque n'y a fait quoi que ce soit. Par contre, lorsqu'il a eu sa chimio pour son cancer du côlon, plus aucune croûte de psoriasis.
Incroyable.
Psoriasis qui est revenu quand la chimio était terminée. Savez-vous pourquoi ?
Alors, il y a deux choses qui sont à souligner. Les traitements par crème, c'est des traitements suspensifs. Ça ne guérit pas le psoriasis. Donc, quand on les applique, ça améliore. Quand on arrête, ça revient. C'est pour ça que ça n'a jamais permis de guérir son
Bien
papa.
Sûr.
Ça, c'est la première réponse. Par rapport à la chimiothérapie, le psoriasis, c'est une maladie avec des troubles de l'immunité. Trop de synthèse de protéines de l'inflammation qui explique pourquoi c'est rouge sur la peau. Et donc quand on a une chimiothérapie, je ne sais pas quel type de chimio a eu son papa, il y a aussi un dérèglement de l'immunité et donc ce qui peut mettre en repos certaines maladies inflammatoires comme le psoriasis. Mmh.
En tout cas, on ne va pas mettre tout le monde sous chimio.
Voilà, après la fin de la chimio, son immunité est revenue à celle qu'elle était auparavant et donc ses lésions de psoriasis sont réapparues.
Je voudrais, professeur, qu'on revienne à cette idée du soleil. Donc ça veut dire que si je me mets au soleil et que j'ai du psoriasis, j'en aurai moins.
Oui, alors ça
mais
veut dire
le soleil, c'est dangereux.
Oui, le soleil en même temps, c'est dangereux. Donc, comment je fais s'il n'y a pas de soleil? Je vais faire des séances d'UV, par exemple?
Alors, la photothérapie, quand elle est faite chez le dermatologue dans des cabines d'UV, est un traitement du psoriasis.
Ah bon?
C'est assez contraignant pour des personnes qui sont en activité professionnelle parce qu'il faut faire 2 à 3 séances par semaine. C'est des séances qui sont courtes, hein, qui durent 2, 3, 4 minutes. Mais il faut se déplacer chez le dermato. Et donc, c'est ce qui limite l'utilisation de ce traitement qui est pourtant très efficace dans le psoriasis.
Mais on ne va pas dans les centres de bronzage.
Non, on
ne
va
hein.
pas dans les centres de bronzage, non.
D'accord.
Non,
il n'y a pas de très mauvaise idée. Il y a pas de cancer de la peau avec ces traitements-là, comme avec les cabines de bronzage.
Alors, c'est des traitements qui sont surveillés, on regarde le nombre de joules, on examine les patients, et si on a un doute, évidemment, on biopsie la lésion suspecte et on arrête le traitement. Le risque nul, il n'existe pas en médecine. Mais en tous les cas, c'est surveillé par rapport aux cabines UV.
Alors, ensuite, vous avez dit, donc les crèmes, tout ça, ça va être un traitement, mais ce n'est pas le traitement qui va guérir le psoriasis, en tout cas le mettre en repos. Donc ensuite, il y a les traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire les médicaments qu'on va avaler par la bouche, hein, notamment. Il y en a un qui est assez connu, ça s'appelle le méthotrexate. Expliquez-nous ce que c'est et comment il agit.
Alors, ces traitements systémiques, ils ne guérissent pas non plus le psoriasis. C'est pareil, quand on les arrête, souvent, on revient à l'état de base. Mais pour les formes les plus sévères, les crèmes ne sont pas assez efficaces. Et donc, on prescrit des traitements comme le méthotrexate. Ça s'appelle un antimétabolique, ça diminue le renouvellement des cellules. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut pour le psoriasis, ça désépaissit les plaques. C'est un médicament qui se prescrit une fois par semaine, qui se prend par comprimé ou par piqûre, il existe aussi par piqûre, et qui nécessite, avant la mise sous ce traitement, de vérifier un certain nombre de choses. Il faut avoir le rein qui fonctionne bien, il faut avoir le foie qui fonctionne bien, et quand on a vérifié tout ça, le traitement se passe bien. Par contre, ça n'agit pas tout de suite. Il faut attendre 3-4 mois pour que ça agisse.
Mais ça vaut le coup, puisque après,
on est soulagé pendant plusieurs mois, plusieurs années.
Mais ça veut dire qu'on va prendre ça toute sa vie ou on peut quand même, à un moment donné, arrêter?
Alors, c'est difficile de savoir quand arrêter. Quand on n'a plus du tout de plaques, on va commencer par diminuer le traitement, voir ce qui se passe. Si il ne se passe rien, on va finir par arrêter en prévenant les patients que ça peut recommencer au bout de 3-4 mois d'arrêt, quand le médicament sera totalement éliminé du corps. Et dans ce cas-là, qu'on se reverra si on a besoin de reprendre le traitement.
Alors
on ne peut pas savoir.
Les crèmes, ça ne guérit pas. Le méthotrexate, ça ne guérit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui guérit? On peut guérir définitivement d'un psoriasis?
On ne guérit pas d'une maladie chronique inflammatoire. C'est comme on ne guérit pas du diabète, on ne guérit pas de l'hypertension. On a des médicaments qui permettent d'aider à mettre en sommeil les maladies. À un moment, quand même, dans la vie, ça va s'arrêter sans qu'on sache pourquoi. On ne sait pas bien pourquoi c'est venu, on ne sait pas bien pourquoi
ça
s'arrête.
Des années de répit, c'est possible, quoi.
Alors, des années de répit au milieu, c'est possible, mais également, à un moment, ça va s'arrêter. Mais ça, on ne sait pas quand. Et donc, en attendant, on a ces traitements.
D'accord, je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle la cyclosporine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça fonctionne bien?
Alors, la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur. Donc, lui, il faut encore faire attention à des choses supplémentaires par rapport au méthotrexate, ne pas avoir d'infection, ne pas avoir de cancer, plein de choses à vérifier. C'est un traitement qui est aussi efficace que le méthotrexate, qui agit beaucoup plus vite en quelques semaines et qui est autorisé chez la femme enceinte, contrairement au méthotrexate. Donc, c'est un médicament qu'on aime bien prescrire avant 50 ans, puisque après, souvent, on a des maladies associées cardiovasculaires qui limitent l'utilisation de ce traitement.
Mais bon résultat aussi, quand ça fonctionne bien en général.
Et vite.
Plus vite que l'autre. Pour lequel il faut attendre plusieurs mois. Ensuite, il y a un dernier traitement qui est possible. Alors là, ce sont les biomédicaments. Ils sont arrivés il y a une quinzaine d'années, je crois, et ça a été vraiment une petite révolution. Ce sont des injections, n'est-ce pas? Et tous les combien?
Alors, une grande révolution, puisque maintenant...
Moi, j'ai dit une petite, mais grande.
Vraiment une grande révolution, puisque pour les formes très sévères, quand on commence ces médicaments, il y a à peu près 80% des patients, 85% des patients qui voient disparaître la quasi-totalité de leur psoriasis.
Bah pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde, alors
pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde? Parce que c'est des médicaments récents et donc dont on ne connaissait pas les effets secondaires. Donc on était prudent, on commençait par ceux qu'on connaissait. Et puis en cas d'échec, pour les patients les plus graves, on avait ces biomédicaments.
Ils agissent,
Alors, ce sont des anticorps qui vont aller cibler les protéines de l'inflammation. Ces protéines qu'on a réussi à décortiquer, en fait, ça va cibler, et c'est de plus en plus précis au fur et à mesure des années. Il y a une dizaine de molécules là qui sont commercialisées et qui sont de plus en plus efficaces dans le psoriasis. C'est pas vrai dans le rhumatisme psoriasique, par exemple.
On les prend comment?
En piqûre. Et alors, selon les traitements, ça peut être une piqûre toutes les semaines, ça peut être une piqûre toutes les 15 jours ou une piqûre toutes les 12 semaines, tous les 3 mois. Donc ça, c'est très appréciable pour les patients. Ces traitements ont un coût important.
Je me doutais qu'il y avait quelque part le revers de la médaille.
Un coût vraiment important. Ouais. Hein, on est entre 8 000 et 12 000 euros par patient et par an.
Mais c'est énorme.
C'est énorme.
Mais c'est pour ça que les gens ne peuvent pas s'offrir ce traitement.
Non, c'est la sécurité sociale, l'assurance maladie qui offre le traitement aux gens qui le nécessitent.
Mais c'est encore très encadré pour choisir qui va en bénéficier et qui ne va pas en bénéficier. C'est ça, vous ne le donnez pas en première intention à quelqu'un qui vient pour une première crise de
psoriasis. On ne le donne pas en première intention à cause de ces deux points. Le premier, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien les effets secondaires. 15 ans, ça met du temps parce que ça peut être des effets secondaires rares. Alors, on les a mieux identifiés, mais voilà, les autres traitements sont quand même efficaces. Mm-hmm. Et puis, il y a
rares mais graves, les effets secondaires dont vous parlez
Ils peuvent être graves avec des événements infectieux. Hein. On a plus de risques de s'infecter que si on ne prenait pas ces traitements. Il y a d'autres choses qu'on peut surveiller aussi.
Ouais. Mais dites-moi, professeur, est-ce que le prix va finir par baisser de ces nouveaux médicaments ou...
Alors, ça a commencé avec ce qu'on appelle les biosimilaires. Ça va être le générique du biomédicament. Et ça, c'est disponible pour les tout premiers que sont les anti-TNF. Ils sont disponibles maintenant depuis 3-4 ans. Ça a fait diminuer le prix de 30%.
Déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais ça reste...
Ça reste très, très, très cher. Eh bien, merci, professeur Sbidian, d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, on en sait plus maintenant sur le psoriasis. Et on a compris, surtout qu'aujourd'hui, on a de nombreuses solutions pour en finir avec cette pathologie, en tout cas pour la mettre au moins en sommeil pour un maximum de malades. Merci encore à vous.
Merci, professeur. Merci. On aime vraiment les bonnes nouvelles dans cette émission.